Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 24 mai et premier dimanche donc de fin de restriction des cultes. Ce n'est pas le cas à Figeac, mais nos frères et sœurs ailleurs, beaucoup vont pouvoir de nouveau louer le Seigneur ensemble le matin et c'est formidable. Merci Seigneur pour cela. Ce matin, nous allons continuer avec le texte de 1 Corinthiens. Je vous invite à retrouver le texte 1 Corinthiens chapitre 7. On va voir les versets 10 à 16. 1 Corinthiens 7, 10 à 16. À ceux qui sont mariés, j'adresse, c'est Paul qui écrit, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, Paul. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il ne soit pas d'accord d'habiter, qu'il soit d'accord, pardon, d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils le sont. Ils sont saints, pardon. Si le non-croyant veut se séparer, verset 15, qu'il le fasse. Le frère et la sœur ne sont pas liés dans ce cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Jusqu'ici. Sept versets pour nous ce matin. Alors, quel titre donneriez-vous à ce texte? On pourrait dire un mariage mode d'emploi, mais il ne s'agit pas de ça. Mariage, mode de recyclage. Vous savez, sur les notices, on a le mode d'emploi et à la fin, il y a comment te recycler le bien, l'aspirateur, qu'on vient d'acheter. C'est pas ça non plus. Ou bien, que faire d'un mariage usagé? Qu'est-ce qui convient ce matin? Peut-être que les célibataires se sentent pas concernés. Ah, on va parler encore des couples. Je les encourage à être attentifs parce que vous le savez que les couples, particulièrement les couples chrétiens, sont porteuses de l'image de l'union entre Jésus-Christ et son Église. Et donc, cela mérite toute l'attention ce matin, même si on ne se sent pas directement concerné. Dans quel contexte nous sommes? On l'a vu la semaine dernière, Paul est en train de répondre à une question que se pose l'église de Corinthe. Est-ce bien de continuer avec le mariage? En arrière-plan, il y a des chrétiens qui sont attirés par l'ascétisme. Pour eux, la sexualité est une mauvaise chose. Être spirituel, c'est être chaste. Paul a donc clairement commencé à expliquer que la sexualité a tout à fait sa place dans le cadre du mariage. Mais il y a des chrétiens qui, semble-t-il, ont franchi le pas. Se séparer de son conjoint pour être plus spirituel. Versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Peut-on être plus clair? L'apôtre n'est pas dupe. Sous un vernis de spiritualité se cache la réalité de conflits dans les foyers. L'usure du temps, la perte de la fraîcheur. Vous savez, dans nos frigos, on a toutes sortes, des fois, des boîtes, des choses, des pots. Et puis, de temps en temps, on regarde la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Et puis, voilà, des fois, ah, quand même, celui-là, je ne vais pas le jeter. Sa date de péremption n'est pas passée, on va le garder. Ou pour d'autres, ah, celui-là, j'en ai marre de le voir. Oula, c'est périmé depuis longtemps, débarrassons-nous-en. Ce n'est pas ainsi que l'on doit considérer le mariage. Vous le savez tous. Retrouvons les commandements que Jésus a exprimés dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu 19, verset 3 à 9. Matthieu 19, verset 3 à 9. Une grande foule suivit Jésus, guérit des malades. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils font référence ici à la loi de Moïse. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils? Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. On va s'arrêter là. On va garder la suite pour une prochaine fois. Deux instructions de Jésus ici. La première se trouve au verset 6. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Peut-on être plus clair? Jésus invoque l'ordre créationnel pour interdire la séparation. Il y a une deuxième instruction au verset 9. Je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse un autre, commet un adultère. C'est plutôt un avertissement ici. La répudiation des épouses, pour motif quelconque, n'est pas légale. La répudiation, pour motif quelconque, n'est pas légale. Et on voit donc, avec notre texte, que Paul communique de façon juste l'enseignement qu'il a reçu de Jésus, son maître. Si Jésus est le Seigneur, dans un couple, les instructions du Seigneur s'appliquent, sinon c'est qu'il n'est pas Seigneur. J'adresse cette instruction que le mari ne divorce pas de sa femme, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ce qui correspond à l'ordre créationnel, pas de séparation. Et au verset 11, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. S'il y a séparation, il est impossible de se remarier, ou bien c'est un adultère, un péché de porneia. l'enseignement de Jésus. Il est question de la lettre de répudiation dans l'enseignement de Jésus. En Deutéronome 24, la loi de Moïse prévoyait en effet la possibilité de renvoyer pour un homme, de renvoyer libre sa femme avec une attestation qui lui permettait de se remarier. Mais si elle se remariait, le retour vers le premier mari était strictement impossible. Cette disposition de la loi répondait à la dureté des maris envers leur épouse, dit Jésus. Si le mari était incapable ou devenait incapable d'aimer son épouse, il valait mieux qu'il y ait une porte de sortie au mariage. Mais la loi est finie. Cette disposition n'est plus possible. Pourquoi ? En tant que chrétien, l'amour de Dieu est en effet répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Nous avons reçu la grâce de l'amour. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus est ainsi exprimée en Ézéchiel 36, verset 25-27. On retrouve ça en Jérémie 31. Et Ézéchiel 36, donc en Ézéchiel 36. Nous lisons ceci. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le problème du cœur dur a été réglé à la croix et aucun chrétien ne peut dire « Je n'arrive pas à aimer mon épouse, c'est impossible, j'ai le cœur trop dur » ou des choses comme ça. Non. Le problème du cœur dur de l'homme a été réglé à la croix. Et dans le sang de Jésus, nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance et de ce cœur dur qui a été ôté et remplacé par un cœur de chair. Jésus fait également mention au verset 19. Au verset 9, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, ce mot infidélité, c'est le mot porneia sur lequel nous avons beaucoup examiné lors des textes précédents. C'est le terme porneia qui convient bien ici, en termes traduits par infidélité. Je vous dis que celui qui répudie sa femme pour infidélité en épouse un autre commet un adultère. Dans la loi, la porneia, l'infidélité ne conduisait pas au divorce. La porneia était sanctionnée par la peine de mort. Hein. Mais Paul ne précise pas le cas de porneia comme motif de séparation pour un couple dans notre texte. L'évangile selon Marc ne le précise pas, ne le détaille pas, ne le rapporte pas non plus. Donc, on en parlera un petit peu après, mais on a vraiment le cas général qui se dégage de ce texte, à savoir les mariages dans le couple chrétien est destiné à durer, c'est tout. Poursuivons notre texte. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Aux autres. Après avoir répondu aux Corinthiens qui sont mariés dans le Seigneur, Paul s'adresse, je les ai appelés les couples mixtes, un chrétien et un non-chrétien, ou pour être plus précis, un chrétien, un croyant et un incrédule. On n'est pas dans le cas de porneia, mais d'union légitime, reconnue par la société romaine d'alors. C'est important de le préciser. Et donc, Paul donne des instructions. En effet, on ne trouve pas dans la Bible toutes les réponses à toutes les questions. Lorsque Jésus enseignait sur les chemins de Judée, le fait que dans l'Église, il y allait avoir des païens et des juifs était quelque chose d'inimaginable. Et donc, on ne trouve pas de réponse à des questions qui ne se posaient pas. Ceci dit, si on regarde les Écritures, on voit que du temps de Néhémie, toutes les femmes non-juives et leurs enfants avaient été renvoyées dans leur pays. Elles avaient été chassées de Jérusalem. Alors, ne faut-il pas faire la même chose avec les couples qui sont composés de chrétiens et d'incrédules? Est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser de son conjoint incrédule, comme Néhémie l'avait exigé à l'époque? C'est une question légitime qui peut se poser pour une jeune église. Le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Et les questions ne doivent pas rester sans réponse. Il valait mieux pour les Corinthiens avoir l'avis de Paul en tant qu'apôtre de Jésus-Christ que celui de faux docteur ou pas de réponse du tout. Et ce principe est toujours valable. Rechercher dans la parole de Dieu le cadre général et déterminer avec sagesse la meilleure réponse dans une situation qui ne s'est jamais posée auparavant. Et cela arrive régulièrement. Cela nous est arrivé à nous quand on s'est posé la question. Comment dans un contexte de confinement, on doit prendre le repas du Seigneur? Jamais on avait vécu ça. On n'avait pas de réponse. Et on a cherché une solution. Versets 12 et 13, la réponse est claire. Aux autres, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Si une femme a un mari non-croyant, qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. Le mot divorce signifie laisser son mari, laisser sa femme. L'état romain était un état de droit et il y avait des dispositions légales pour divorcer. Ça pouvait être une simple formalité ou donner lieu à un procès. C'était possible à l'initiative de l'homme comme à l'initiative de la femme, avec ou sans consentement. Finalement, c'est très proche de ce qui se pratique aujourd'hui. Et pour Paul, un chrétien ne prend pas l'initiative d'un divorce, fût-ce dans le cas d'un croyant, d'un partenaire, d'un conjoint qui n'est pas croyant, qui ne croit pas. Alors pourquoi ? Paul donne la raison, verset 14. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Littéralement, il est sanctifié par sa femme. Et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Est sanctifiée par son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs. Ou plus littéralement, vos enfants seraient impurs. Alors qu'en réalité, ils sont saints. Sanctifiés, le mot est prononcé. Même mot que Jésus a enseigné dans sa prière. Que ton nom, le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Même mot qu'il prononce dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 7, 17. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole et la vérité. Ou même au début de notre lettre aux Corinthiens, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, saints par vocation. Alors comment comprendre cela? Peut-on être saint sans croire? Non, bien sûr, il ne s'agit pas de cela ici. Le commentaire que j'ai consulté, M. Somerville, n'apportait pas de réponse claire à cette question, alors j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce que j'ai compris. Dans les évangiles, il n'y a que les esprits mauvais qui soient qualifiés d'impurs, premièrement. Pierre a dû apprendre que les aliments impurs d'hier, dans la loi de Moïse, étaient déclarés purs dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Dans le royaume de Jésus, aucun enfant n'est impur. Aucun enfant n'est impur. On n'est clairement plus du temps de Néhémie. Clairement, on n'est plus du temps de Néhémie. On ne peut pas qualifier une union légale d'impure, car le fruit en est pur. Les couples incrédules, athées, relèvent donc aussi de la création et sont des mariages valables aux yeux de Dieu. Et si le mariage est valable, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair est aussi une réalité. Alors, c'est une bonne nouvelle quand même ici. Le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et l'inverse. Le croyant l'emporte sur l'incrédule dans le mariage. Vous connaissez la règle de grammaire, lorsqu'il y a un mot féminin et un mot masculin, comment accorder l'adjectif? Ben, on dit le masculin l'emporte sur le féminin. Alors il y a c'est une image que j'ai trouvée pour ce principe ici que présente l'apôtre Paul. Ben, dans un couple, lorsqu'il y a un croyant et un incrédule, ben, le croyant l'emporte sur l'incrédule. En conclusion, le temps de Néhémie est terminé. Chaque chrétien a la responsabilité de veiller sur son propre mariage, qu'il soit dans le Seigneur ou qu'il ne soit pas dans le Seigneur. Il a la même responsabilité. Versets 15 et 16. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère et la sœur n'est pas liés dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? J'ai intitulé ici ce couple de versets « La faiblesse du couple mixte ». Croyant. Incrédule. L'incrédule n'appartient pas au royaume de Christ et il n'est pas soumis à ses lois. Alors, il peut casser le mariage et il le fera. L'apôtre dit qu'à un moment, il vaut mieux lâcher prise. Quand tout a été fait pour sauver son mariage, si elle veut partir, qu'elle parte. S'il veut partir, qu'il s'en aille. Quand le mariage est devenu une chaîne qui nous prive de la paix de Christ, le Seigneur ne veut pas que l'on insiste. C'est lui, de toute façon, qui est capable de sauver. Sauver le conjoint et sauver le mariage. À un moment, il faut abandonner la situation au Seigneur et il faut lui donner aussi le fardeau de notre culpabilité devant l'échec de son mariage. C'est triste, c'est douloureux, mais il y a plus triste et douloureux que cela comme situation. C'est lorsque les couples chrétiens qui divorcent. Aujourd'hui, le divorce. Le divorce est une réalité. Vous pouvez faire une pause ici, si vous le souhaitez. Le divorce est une réalité. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, pour pornéia, on en a longuement parlé, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Jésus sous-entend donc ici que Dieu peut acter la rupture d'une alliance de mariage. Et Paul le confirme dans notre texte, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas, n'est pas littéralement esclave dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le divorce est une réalité. Les liens du mariage qui étaient censés durer jusqu'à la mort peuvent bel et bien être détruits. Quelques statistiques du 21e siècle. 45% des mariages finissent par un divorce. Ce sont les femmes qui le demandent le plus souvent. Elles sont à l'origine de 3/4 des divorces contentieux. Quelque chose qui doit parler au mari. La principale cause, l'infidélité, 30% des cas. L'égoïsme, le mauvais caractère, les comportements abusifs, les désaccords, l'incompatibilité d'humeur ou quoi d'autre. Tout ceci relève de la dureté du cœur. Le manque d'argent et de travail, et les beaux-parents. Les divorces n'épargnent pas les couples chrétiens, hélas. Même les pasteurs, les anciens, les diacres. On connaît tous des cas, je suppose. Cependant, le divorce est un acte de violence fait à Dieu. Pourquoi je dis ça ? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, a dit Jésus. Et un divorce, c'est l'homme qui casse ce que Dieu a fait. Nous sommes des créatures qui avons la possibilité, qui avons le pouvoir de vandaliser l'œuvre de Dieu. Et nous le faisons. Et nous le faisons de mieux en mieux, ou de plus en plus. Je vous propose quelques métaphores de ce qu'on a fait du mariage. On a fait un trou dans une piscine avant d'aller nous y baigner. On a renversé la pièce montée, le superbe cadeau tout en longueur. On l'a renversé avant de le servir à table. On rejette nos égouts à côté du puits où l'on puise l'eau pour se désaltérer. On joue au piano en encassant les cordes avec une pince coupante. On piétine la parcelle de jardin que l'on vient de bêcher avant même d'y avoir placé la moindre semence. quelques applications maintenant ou quelques conseils. Priez pour et priez dans les couples. Les célibataires peuvent prier pour les couples de l'Assemblée. Je suis persuadé que Dieu entendra et exaucera vos prières. Et priez dans les couples également, la femme prie pour son mari, le mari prie pour sa femme, avec l'action de grâce. Priez dans les couples, attention au danger de l'idolâtrie. On peut idolâtrer le mariage. Vous savez, dans les émissions de télé-réalité, il y a ces... On assiste à la préparation, quand un couple prépare son mariage. Et on a des fois l'impression que la cérémonie, la fête qui se prépare est plus importante que le conjoint lui-même. Attention à la pensée que le fait d'être chrétien nous met à l'abri du divorce. On peut avoir cette idée, je suis chrétien, je suis marié avec une épouse, on a marié dans le Seigneur, on a fait tout comme il faut, le divorce, ça nous arrivera jamais. Ce n'est pas le mariage qui protège le couple, mais c'est l'inverse. C'est le couple qui protège le mariage, c'est l'amour des conjoints qui protège leur mariage, c'est pas l'inverse. Les dangers de l'idolâtrie du mariage. Voir comme Dieu voit. Quand on est dans une tempête, on a besoin d'une bonne boussole. On a besoin de savoir où on va, où on a besoin de tenir fermement le gouvernail. Mon mariage est en mauvais état, on a l'impression que le bateau coule, qu'il prend l'eau de partout. Mais comment Dieu voit les choses? Comment Dieu voit les choses? Dieu me voit uni à mon conjoint. Alors si Dieu me voit uni, je dois voir les choses comme lui les voit et agir en conséquence. Et c'est cette réalité qui est la bonne. C'est la façon dont Dieu voit qui est juste. Dans les tempêtes de la vie, Dieu nous voit unis. Considérons-nous comme unis dans les couples. Satan ne peut pas détruire un mariage. Dieu avait donné la permission à Satan de tout, Dieu avait donné la permission à Satan de tout prendre, sauf la vie de Job. Vous savez, dans l'histoire de Job, excusez-moi. Satan a pris les richesses de Job, Satan a pris les serviteurs de Job, Satan a pris les enfants de Job, Satan a pris sa santé, mais Satan n'a pas pu toucher à la femme de Job. Elle est restée à ses côtés, supportant sa mauvaise humeur ou sa mauvaise haleine. Pourquoi? Ils étaient même chers. La femme de Job était inaccessible à Satan. Satan n'a pas le pouvoir de casser les mariages. Il n'y a que nous qui avons le pouvoir de casser nos mariages. Et si nous avons le pouvoir de casser nos mariages, nous avons aussi le pouvoir de ne pas les casser. C'est entre nos mains. Dieu est de notre côté. Dieu est pour nous. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et Satan peut venir déverser aux portes de notre cœur toutes ces fabrications de porneia, nauséabondes, il n'aura pas le dernier mot. Jésus est vainqueur et sa victoire est certaine. Dieu est pour nous. Jésus-Christ est notre avocat. 1 Jean 2, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus plaide notre cause devant Dieu. Il plaide notre cause avec son sang. Il plaide notre cause avec son sang. Il est entendu. Dernier point, le secours de l'obéissance. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous avons la liberté d'obéir. Nous avons la liberté d'obéir. Et en même temps, l'obéissance est la clé de la liberté. Pourquoi ne pas obéir? Pourquoi ne pas se soumettre à notre Seigneur? Alors pour conclure, la balle est dans notre camp. Je pense que nous avons ce qu'il faut pour conduire les barques à bon port. Nous avons la sagesse que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, les avertissements, les instructions, les enseignements. Nous avons l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons un merveilleux Sauveur qui vient à notre secours. Nous avons obtenu grâce en Jésus-Christ. Alors vraiment, avançons dans l'obéissance. Pour terminer, j'ai prévu un chant qui est tiré du film qui a été projeté dernièrement, La Voix du Pardon. C'est un chant d'un ado, d'un enfant qui ne trouve de secours que de se projeter dans le fait qu'il sera un jour dans la présence de Dieu. Toutes ces souffrances, toutes ne le terrassent pas parce qu'il trouve refuge dans la pensée qu'un jour il sera dans la présence de Dieu. Il n'a rien, il est faible, il ne peut absolument pas comprendre tout ce qui lui arrive, mais il peut. Il a la possibilité de s'imaginer ce jour où il verra Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour le moment que nous avons passé avec ta parole. Qu'elle puisse, Seigneur, nous ouvrir et nous libérer, nous mettre en liberté, nous permettre de vivre ce que tu as prévu dans les couples. Nous qui sommes tes enfants, ne permets pas que nous coulions, que nous sombrions, que nous péchions. Et garde-nous. Merci pour la grâce que tu fais à tous les couples. Quelle que soit leur origine, leur façon dont ils se sont constitués, pour toi, ce sont de vrais couples. Et pour toi, tu es prêt à les bénir. Seigneur, merci de cela. Merci pour les enfants, on n'en a pas parlé. On prétexte souvent que il ne faut pas divorcer à cause des enfants. Toi, tu, Seigneur, dans ta parole, tu dis, c'est pas ça. On ne divorce pas parce que Dieu demande de ne pas divorcer. C'est la seule raison qui doit être mise en avant, la première. Aide-nous, Seigneur, à obéir tes commandements. Fortifie les couples de notre assemblée. Fais-leur la grâce qu'ils puissent toujours entretenir cet amour entre eux. Et, Seigneur, éloigne de nous les mauvais enseignants, les mauvais enseignements. Il y avait ce problème de ces gens qui s'étaient mis en tête qu'il fallait se séparer, casser les mariages pour plaire à Dieu. C'était pas vrai. Garde-nous, Seigneur, de mauvais enseignements. Bénis notre assemblée. Fais de nous des témoins que les mariages de les couples de notre Église puissent vraiment porter ce témoignage, cette lumière vive auprès de toutes les personnes qui nous entourent. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont célibataires également. Elles ont d'autres combats à mener. Seigneur, et te les confions aussi. Merci pour leurs prières, pour tous les couples. Merci pour la solidarité dans le corps de Christ. Par Jésus. Amen.